Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. On commence par l'Ebola en République démocratique du Congo. Deux premiers cas de fièvre hémorragique signalés dans la province du Sud Kivu, dont un décès. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le gouvernorat de cette province, la troisième touchée par l'épidémie d'Ebola, qui sévit dans l'est du pays depuis un an. Selon les autorités sanitaires, ces deux nouveaux cas positifs d'Ebola ont été confirmés dans la nuit du 15 août dans le territoire de Mwenga. L'une des victimes, âgée de 26 ans, est décédée, mais l'un de ses enfants testés positif est encore en vie et pris en charge par les équipes médicales, soumis le gouvernorat du Sud Kivu. Depuis hier, les équipes de la Coordination nationale anti-Ebola sont venues à l'appui pour contribuer efficacement à la lutte contre la maladie, précise le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje. Déclaré le 1er août 2018, l'épidémie de fièvre hémorragique était jusqu'à présent cantonnée aux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, bien que deux cas aient été enregistrés dans l'Ouganda voisin. Avant ces deux nouveaux cas au Sud Kivu, le bilan de l'épidémie d'Ebola dans le pays était officiellement de 1905 morts et 844 patients guéris. Plus de détails avec Eddy Sango.
Depuis le début de l'épidémie, les cumuls des cas et des 2842, dont 2748 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1905 décès et 844 personnes guéries, a indiqué le ministère de la Santé dans son dernier bilan publié mercredi. L'épidémie déclarée le 1er août 2018 dans la province du Nord Kivu et marginalement dans celle de l'Ituri. D'après les experts, la mortalité est tombée à 29% avec les médicaments RGN et B3 et à 34% avec le MABN1-4. Tous les malades reçoivent le traitement sur base de ces deux molécules qui ont fait leur preuve, a déclaré hier le professeur Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur de la lutte contre Ebola. Grâce à ces nouvelles méthodes ainsi qu'un vaccin expérimental utilisé jusqu'à présent, on peut arriver à contrôler l'épidémie dans 3 ou 4 mois, a estimé l'expert congolais pionnier de la lutte contre Ebola. Les efforts de la riposte sont souvent perturbés par l'insécurité dans une zone infestée de nombreux groupes armés, mais aussi par des résistances communautaires.
Au Congo-Brazzaville voisin, le président Denis Sassou Nguesso a promis dans son discours à la nation à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du pays d'exploiter le gisement d'hydrocarbures découvert récemment dans la cuvette en respectant l'environnement. Le chef de l'État a aussi promis de relancer l'économie congolaise, ce qui est impossible, selon Telama Miabe, coordonnateur national du National Congress for Democracy, le Congrès national pour la démocratie, une ONG basée ici à Washington. Au micro d'Irénée Herman Ongbo, Telama Miabe a expliqué que le gouvernement de Brazzaville a déjà atteint ses limites.
Ce discours-là, ça fait 22 ans que nous l'entendons. C'est le même discours, mais il n'y a pas de changement sur le terrain. C'est ce que les Américains appellent du blablabla. On écoute, c'est les mêmes choses qu'on répète. Tout est dans la forme et dans le concret, il n'y a absolument rien du tout. La vie des Congolais n'a pas changé. De toutes les façons, il a parlé de la découverte du pétrole. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des croissances de production pétrolière au Congo.
Tout au long de son discours, il a promis quand même en faire une bonne gestion. Est-ce que cela augure d'un espoir pour une relance de l'économie du pays?
Non, absolument pas. Je crois fondamentalement à cette théorie qui dit que la succession des événements et des phénomènes est due au principe de la causalité. C'est-à-dire que dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, en définitive, un gouvernement qui est conduit par M. Sassou Nguesso ne permettra pas de développer le pays parce qu'il a eu 21 ans, 22 ans de pouvoir pour le faire. Il y a eu des surplus budgétaires qui étaient énormes, qui sont rentrés dans les caisses de l'État. Mais où est le développement du Congo? Aujourd'hui, le Congo est venu se plier au Fonds monétaire international pour qu'on leur prête de l'argent encore. Et la question fondamentale que les Congolais continuent à se poser, c'est où sont passés ces milliards.
Mais si tout était si mauvais, le Congo n'allait pas obtenir la confiance des institutions qui lui prêtent de l'argent.
Non, vous savez, le Fonds monétaire international a des obligations vis-à-vis des pays membres. Vous savez, le cas du Congo, c'est ce cas particulier où, en fait, on n'aurait même pas dû prêter de l'argent au Congo-Brazzaville. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a eu des excédents budgétaires. Mais la réalité, à long terme, nous allons revenir sur cette décision quand les choses changeront.
À quand le changement, alors ?
Le changement viendra, quelle que soit la durée de M. Sassou Nguesso au pouvoir. Le Congo changera. Il y aura un jour où les Congolais se retrouveront tous et feront leur synthèse de cette histoire. Du gouvernement de M. Sassou Nguesso. Et on a des éléments aujourd'hui pour repartir vis-à-vis du Fonds monétaire international pour leur dire que vous avez prêté de l'argent au Congo-Brazzaville, vous n'aurez pas dû, parce que vous le savez, ils le savent. Donc nous disons simplement que le changement arrivera. Je ne sais pas quand, mais si Kadhafi est parti, si Saddam Hussein est parti, si Mobutu est parti, tous les grands tyrans et dictateurs du monde sont partis, lui aussi il partira.
Telama Miyabe, coordonnateur national du National Congress for Democracy, joint ici même à Washington.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Au Soudan, les leaders du mouvement de contestation ont désigné hier un ancien haut fonctionnaire de l'ONU, Abdallah Hamdok, pour devenir premier ministre du futur gouvernement de transition. Les détails avec Michel Joseph.
Abdallah Hamdok, économiste, a été de 2011 à 2018 vice-secrétaire de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. En septembre 2018, l'ex-président Omar al-Béchir l'avait même désigné ministre des Finances, mais il avait refusé le poste. Le Conseil souverain, future autorité, composé de 6 civils et 5 militaires, doit annoncer mardi s'il le confirme à ce poste. Le gouvernement devrait être formé le 28 août, en majorité par des civils, et rencontrera le Conseil souverain le 1er septembre. La transition, commencée le 4 août avec le paraphe de la déclaration constitutionnelle, durera 3 ans et 3 mois. Cette transition doit s'achever par la tenue d'élections dans ce pays de 40 millions d'habitants, dirigé pendant 3 décennies d'une main de fer par le général Omar al-Béchir. Les 300 membres de l'Assemblée législative, dont 40% de femmes, seront nommées dans les 3 mois suivant la signature de l'accord demain samedi. D'ailleurs, le jour de la signature de cet accord coïncide avec l'ouverture à Khartoum du procès de M. Béchir, inculpé de corruption.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Maintenant, au Burkina Faso, 3 policiers burkinabés ont perdu la vie dans une embuscade jeudi dans le nord du pays. L'incident a eu lieu au lendemain de la mort de 4 militaires tués par un engin explosif. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Le syndicat de la police, UNAPOL, a fait savoir dans un communiqué que cette équipe du commissariat central de police de Djibo, partie pour une mission de sécurisation d'un site de réfugiés à Djibo-Mentao, est tombée dans une embuscade. En plus des 3 policiers tués, un autre a été blessé. L'embuscade a été menée tôt dans la matinée par des individus armés non identifiés qui ont réussi à s'enfuir après l'attaque. Un certain nombre de défaillances imputables à l'État seraient à l'origine de ce drame, a dénoncé l'UNAPOL sans plus de précision. Les forces burkinabées semblent incapables d'arrêter les attaques et les djihadistes étendent leur influence dans des zones de plus en plus grandes, tandis que des milliers de personnes fuient les localités ciblées. Cette attaque survient au lendemain de la mort de 4 militaires sur l'axe Touéni-Loroni dans la province du Sourou. Le Burkina Faso est confronté depuis 4 ans à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées dans le nord du pays, ces attaques se sont étendues à d'autres régions, dont celle de l'Est, frontalière du Togo et du Bénin, qui est désormais une deuxième grande zone d'insécurité.
Politique au Gabon, pour terminer, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a assisté ce vendredi à une cérémonie commémorative à Libreville sans faire de discours. Mais il a été filmé par des médias internationaux pour la première fois depuis son accident vasculaire cérébral il y a 10 mois. C'est sa première apparition publique hors de son palais et filmée par d'autres organes que ceux de la communication de la présidence ou des médias d'État. Au moment où une partie de l'opposition gabonaise relance le débat sur sa capacité à exercer ses fonctions de chef de l'État. Les détracteurs du président Bongo Ondimba appellent d'ailleurs les Gabonais à venir massivement se faire leur avis sur la question eux-mêmes demain samedi, lors du défilé militaire pour le 59e anniversaire de l'indépendance auquel M. Bongo assiste chaque année. Le président doit aussi s'adresser à la nation dans un discours diffusé par les télévisions gabonaises ce soir. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.
Pour Adam blessé.